Et bonjour à tous, c'est une affaire tentaculaire dans laquelle se croisent des stars, des collectionneurs, des patrons de musées, le FBI et la police française. L'ex-patron du Louvre, Jean-Luc Martinez, est soupçonné d'avoir poussé ses collègues des Émirats Arabes Unis à acheter une stèle de Toutankhamon qui était issue du pillage archéologique. Bonjour Philippe Reltien.
Bonjour.
Jean-Luc Martinez est donc aujourd'hui mis en examen et vous allez nous expliquer comment il a pu se retrouver impliqué dans un trafic d'antiquités dont les principaux acteurs étaient implantés en Égypte, en Allemagne et en France.
Secret d'info. Jacques Monin sur France Inter.
Le plus grand musée du monde, au cœur d'une enquête pour trafic d'antiquités. L'ancien patron du Louvre a été mis en examen mercredi. À la tête de l'institution de 2013 à l'été dernier, Jean-Luc Martinez est soupçonné de blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée.
Voilà un extrait d'un reportage d'Euronews diffusé en mai dernier. On va donc se pencher sur cette affaire à peine croyable. Le Louvre a proposé à son musée jumeau installé à Abu Dhabi d'acheter pour 50 millions d'euros d'antiquités dont certaines auraient été pillées. Alors tout part en fait d'une soirée de gala qui était organisée au célèbre musée de New York, le Metropolitan Museum of Art. Alors racontez-nous, Philippe Reltien, ce qui s'est passé ce soir-là.
Oui, alors nous sommes le 7 mai 2018 à Central Park, dans une des magnifiques salles du musée. On sert des cocktails, des coupes de champagne. Il y a là Jean-Paul Gaultier, Donatella Versace ou encore l'avocate et épouse de George Clooney. Et il y a aussi la star de la télévision américaine, Kim Kardashian, qui se fait prendre en photo appuyée sur le sarcophage d'un prêtre égyptien du 1er siècle avant Jésus-Christ.
Et en quoi ça nous intéresse ?
Eh bien, cette photo, en apparence anodine, va provoquer un tsunami. Car sans que Kim Kardashian s'en rende compte, elle va soudain révéler l'existence d'un trafic international d'œuvres d'art. Écoutez Emmanuel Pierra, collectionneur lui-même et avocat, il nous explique comment tout commence.
C'est cette photo qui fait le tour de la planète, vue par des millions ou des milliards, je ne sais plus, de followers ou de likes, et qui d'un seul coup est vue par, je crois, l'adolescente, la fille d'un des trafiquants, d'un des pillards en Égypte, qui le montre à son père en disant « Regarde, ça ressemble à tes objets, papa », et le papa devient blême et va à la police du Caire se dénoncer en disant « Non seulement je ne veux pas prendre pour eux, mais en plus ils ne m'ont pas payé », en parlant de ses complices. Et c'est comme ça que la police du Caire appelle le FBI et que l'affaire éclate au Metropolitan.
Au Metropolitan, mais aussi au Louvre, puisqu'ensuite on va découvrir que le célèbre musée français a fait lui acheter des objets volés aux Émirats Arabes Unis.
Effectivement, 7 objets précisément, dont un buste de Cléopâtre monumental et une stèle avec des inscriptions faisant référence à Toutankhamon.
Mais alors, on a envie de comprendre comment ça a été possible.
Alors pour le comprendre, il faut faire une incursion par les révolutions arabes. On est en 2011. Au Caire, cette année-là, tout le monde a le regard braqué sur ce qui se passe place Tahrir. Mais pendant ce temps-là, des trafiquants de tout poil profitent du chaos pour sortir de leur cachette de vrais trésors qu'ils vont ensuite écouler en contrebande après les avoir fait voyager dans de nombreux pays. Écoutez encore Emmanuel Pierra nous raconter ce qu'aura été le circuit de ces objets.
Ils vont transiter par différentes mains qui les sortent évidemment, mais transiter assez vite au Liban ou en Turquie, ou en Syrie, puis ensuite voyager, passer entre différentes mains, hein, aussi dans ces mêmes pays, et les objets vont peu ou prou prendre le chemin après de l'Europe de façon détournée. Certains vont même faire des allers-retours absolument incroyables à travers le monde, Bangkok, Dubaï, être envoyés dans des zones un peu particulières qu'on appelle des ports francs, c'est-à-dire des zones hors droit qui existent en Suisse, au Luxembourg, à Singapour, il y en a même aux États-Unis, qui sont des endroits dans lesquels aucune législation ne s'applique.
Et des endroits dans lesquels on stocke donc ces antiquités en attendant de les écouler. Alors maintenant qu'on a planté le décor, Philippe, il faut qu'on s'intéresse à deux personnages qui sont centraux dans cette affaire. Il s'agit de Simon et de Sérope, c'est leur prénom, de Simon et de Sérope Simonian. Alors dites-nous qui ils sont.
Oui, tous deux font partie d'une famille égyptienne qui a possédé une galerie d'antiquités au début des années 70 au Caire et qui s'est ensuite exilée à Hambourg. Les deux frères ont alors pris la nationalité allemande. Et une fois Simon décédé, Sérope a repris les trafics de son frère en s'abritant derrière l'enseigne d'un un respectable commerce de pièces de monnaie de collection. Il revend alors en sous-main des objets pillés en les faisant passer pour des objets licites. Et ça marche car personne ne se méfie des simoniants, comme l'explique Roxana Azimi, qui a suivi cette affaire pour le quotidien Le Monde.
Ils n'ont pas pignon sur rue dans le sens où ils n'ont pas une vitrine. Ils travaillent en chambre, ce sont des marchands en chambre, ils ne font pas des grandes foires, ils font pas la TFAF de Maastricht, ils font pas la Biennale des Antiquaires. On ne les voit pas dans les grands salons, donc ce sont des gens extrêmement secrets, pas du tout visibles. D'ailleurs, la provenance simonian n'apparaît pas dans les catalogues de vente.
Et quand on n'apparaît pas, eh bien on ne suscite pas la méfiance. Et pour vendre ces objets, Philippe, c'est Rob Simonian recourt à un faussaire, il ne fait pas ça tout seul. C'est un homme, lui, qui s'appelle Robin Dibb.
Oui, alors, Robin Dibb, c'est un peu le représentant de commerce des Simonians. C'est vraiment leur homme de main. Et pour brouiller les pistes, il invente une légende aux Antiquités et il leur fabrique de faux vieux documents. Écoutez ce que raconte encore à son sujet l'avocat Emmanuel Pierrat.
Robin Dibb, notamment, au fur et à mesure qu'on lui demande un document de plus, fabrique le document de plus, date le document de plus, le tape, reconstitue les documents manquants. Il dit non pas « j'ai fait des faux », mais « j'ai reconstitué les pièces qui manquaient dans le dossier ».
Oui, sur une vieille machine à écrire achetée à Berlin.
Il fabrique au fur et à mesure les 17 ou 18 documents qui finissent par laisser penser qu'a priori, les objets sont achetables et sont sortis légalement d'Égypte il y a très longtemps, même si les sarcophages ont été repeints et redorés, même s'ils ont un lustre qu'ils n'avaient certainement pas quand ils ont été déterrés quelque part le long du Nil ou dans une vallée merveilleuse dans la haute Égypte.
Ouais, donc finalement, c'est un réseau dans lequel chacun a une fonction précise.
C'est ça. Et un pré-rapport d'enquête rédigé par la justice américaine, que nous avons pu consulter, documente la manière dont ce réseau procède. Voilà notamment ce qu'on peut y lire.
Il semble que les voleurs de ce réseau de trafic envoyaient par courrier électronique des photos d'antiquités sales et endommagées à Dibb et à Simonian. Une fois que Dibb acceptait d'acheter une antiquité volée, la pièce était ensuite sortie en contrebande de son pays d'origine. Dibb arrangeait alors qu'elle soit nettoyée et restaurée. Dibb semble avoir également utilisé des documents falsifiés.
Et avec ces documents falsifiés, Robin Dibb allait ensuite voir un expert français. Et c'est un autre des personnages clés de cette affaire.
En effet, il s'agit de Christophe Kunicki. C'est un expert de la maison de vente aux enchères Pierre Berger et Associés. Il a effectivement un rôle pivot dans l'affaire parce que c'est à lui que Robin Dibb va s'adresser pour vendre l'essentiel de ce qui sera acheté pour le Louvre d'Abu Dhabi.
Et quoi, par exemple?
Eh bien, entre autres, il lui propose un buste de Cléopâtre, le sarcophage doré de la princesse Enoutaoui et la fameuse stèle en granit rose de Toutankhamon.
Et Christophe Kunicki, lui, qui est un expert, il ne se pose pas de questions sur la provenance de ces objets?
Alors ça, ce sera l'enquête de le dire. Mais lorsqu'il les voit en photo d'abord, il pense déjà à qui il pourrait bien les vendre, comme le raconte encore Roxana Azimi du quotidien Le Monde.
Comme il savait qu'un musée très important, qui est le Louvre Abu Dhabi, dépensait des sommes très importantes par an, autour de 40 millions d'euros, pour acheter des objets d'art, il s'est dit, voilà, c'est à ce musée qu'il faut le présenter. Et il a envoyé un dossier pour présenter cette stèle.
Et le président du Louvre, on va le voir, va tomber dans le panneau, consciemment ou pas, ça on en parlera après. Maintenant, ce qu'il faut préciser, Philippe, c'est que tout ça, l'expert Christophe Kunicki, il ne le fait pas gratuitement.
Évidemment non. Il joue sur plusieurs tableaux. En tant qu'expert, il organise des ventes aux enchères publiques chez Pierre Berger et Associés avec des objets qu'il achète et revend à titre privé. Et à chaque fois, ces objets prennent de la valeur et lui prend sa commission au passage, comme le relève encore Emmanuel Pierrat.
Il prend plusieurs fois sa com, comme expert, de 7%. Il prend une com comme intermédiaire quand il monte la vente de plusieurs pourcentages, je ne sais pas exactement sur les objets, sur le type d'objet. Et puis il reprend une commission quand il achète l'objet et qu'il le revend lui-même à un autre intermédiaire ou à un musée. On passe de 50 000 à 200 000. On passe pour le sarcophage acheté par le maître de je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros à 5 millions de dollars au marteau. On passe pour des objets mésopotamiens de 80 000 à 800 000. Et puis après, à d'autres chiffres extrêmement importants. On rajoute un zéro minimum à chaque fois.
Et je précise que Christophe Künicki n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro.
Ouais, c'est dommage, ça aurait été intéressant de l'entendre. Mais donc, il a réussi à vendre des objets volés au Louvre d'Abu Dhabi.
C'est ça, parce que parmi les clients de Christophe Künicki, il y a le Louvre et son président directeur de l'époque, Jean-Luc Martinez. Jean-Luc Martinez va d'ailleurs se déplacer personnellement pour aller voir le buste de Cléopâtre et la stèle de Toutankhamon lorsqu'ils sont visibles à Paris. Et si l'on en croit encore Emmanuel Pira, il va être enthousiasmé.
On a un Jean-Luc Martinez qui est un président qui sort de son rôle à un moment. C'est-à-dire qui va voir de lui-même. Künicki décrit un Jean-Luc Martinez totalement fasciné. Il y a quelque chose de très humain et très enfantin, hein, et en même temps de très empressé dans ce haut fonctionnaire qui d'un seul coup décide de s'affranchir de toutes les précautions éventuellement habituelles.
Mais en même temps, Philippe, Jean-Luc Martinez, il n'est pas le seul à décider de ce qu'on peut proposer au Louvre à Abu Dhabi.
Non, il s'appuie sur une agence privée qui s'appelle France Museum. C'est cette agence qui conseille les Émiratis sur ce qu'ils peuvent acheter pour remplir les salles d'exposition du Louvre à Abu Dhabi. Une fois que l'agence a rendu un avis, la commission d'acquisition du Louvre à Abu Dhabi vote pour acheter les objets.
Et Jean-Luc Martinez, lui, il joue quel rôle dans ces institutions ?
Alors à l'agence, il arbitre sur les pièces qu'on va proposer aux Émiratis et au musée d'Abu Dhabi, il a une voix au même titre que les autres membres qui votent pour décider de ce qu'on achète.
Et donc il a voté pour l'acquisition des objets proposés par Christophe Künicki.
Oui, c'est ça. Et le résultat, c'est que la stèle, comme le buste et le sarcophage, seront achetés par le musée d'Abu Dhabi.
Et lui non plus, il n'a pas eu de doute sur leur provenance ?
Alors un peu si quand même. En août 2016, saisi d'un doute, il demande à France Museum de lui donner des précisions sur la provenance de la stèle. Mais ses services valideront finalement les certificats bidons de Robin Dib. Alors c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais écoutez le sénateur communiste Pierre Ouzoulias, qui est archéologue et vice-président de la Commission de la Culture au Sénat. Lui pense qu'on a tendance à fermer les yeux sur l'historique des objets.
La recherche sur l'origine des objets qui sont soit vendus, soit présentés dans les collections muséales a souvent été considérée comme quelque chose d'annexe. C'est-à-dire que l'identité de l'objet, elle s'acquiert par son acquisition, dans le cadre d'une vente ou par l'acquisition dans une collection publique.
Alors, l'objet avant, s'impose de lui-même.
Pas. C'est ça. Avant, ça n'existe pas. C'est presque une histoire refoulée.
Oui, cette propension à fermer les yeux sur l'origine des pièces, on la retrouve aussi dans des maisons de vente aux enchères.
Exactement. Alors ça, c'est ce qu'a constaté un grand collectionneur suisse qui s'appelle Jean-Claude Gandur. Récemment, il a eu des doutes sur la provenance d'un portrait égyptien sur bois qu'il avait acheté à la Biennale des Antiquaires à Paris. Mais chaque fois qu'il a demandé des détails sur les anciens possesseurs de cet objet, il s'est heurté à un mur.
Si vous regardez un catalogue de vente aux enchères, vous avez ancienne collection européenne, au mieux, ancienne collection Madame M ou Madame Z, compte 2-3 petits points de suspension. En ce moment, mon conservateur est en train de faire un travail de recollection, c'est-à-dire de demander à toutes ces maisons de vente, puisque j'ai acheté pendant 40 ans, est-ce que nous pourrions savoir qui est Madame M ? Impossible. On refuse de nous répondre. On se retranche derrière l'anonymat. Et cet anonymat est protégé.
Ouais, donc il est quasiment impossible de savoir d'où viennent du coup ces objets. Mais dans le cas de la stèle de Toutankhamon, Philippe, on parle là d'une pièce magistrale. C'est pas le genre de chose qu'on achète sans savoir d'où elle vient.
Oui, alors on en a trouvé une trace dans les archives du Louvre. Il existe bien une photo d'elle, prise en 1998, et on situe son origine sur le site de fouilles d'Abydos, pas très loin de Louxor. Marc Gabold, un égyptologue, pense qu'elle a été trouvée là dans les années 90, sur le chantier de construction d'un nouveau quartier. Mais ce qui est très étrange, fait remarquer Roxana Azimi, c'est que personne ne s'interroge lorsque la stèle réapparaît soudainement.
Ce qui est assez surprenant, c'est comment est-ce qu'un objet avec une provenance Toutankhamon n'est pas connu des musées ? Comment ça se fait qu'on n'en ait pas entendu parler avant ? C'est quand même le genre d'objet qui devrait faire clignoter tous les signaux d'alarme. Donc visiblement, il n'y a pas eu d'inquiétude, en fait. Dans les échanges que j'ai pu lire, je n'ai pas vu, de la part de ceux qui ont étudié le dossier, de questionnement sur comment cet objet est sorti d'Égypte.
Mais on ne s'est vraiment pas posé de questions ?
Pas assez, visiblement. Mais pour l'avocat de Jean-Luc Martinez, François Artufel, à l'époque, le patron du Louvre n'avait pas de raison d'être plus suspicieux qu'il ne l'a été.
La stèle a une provenance qui est licite. Nous sommes en 2016. Les membres de l'agence France Muséum ont exécuté des diligences les plus poussées et approfondies possibles avec les moyens qui sont les leurs. Je dois rappeler que les membres de l'agence France Muséum ne sont pas des policiers.
Et donc, ils n'avaient pas de moyens d'enquête. Maintenant, une enquête, le collectionneur Jean-Claude Gandur, lui, en a fait une quand même.
Ben oui, une personnelle, car sur les documents qui accompagnent la stèle de Toutankhamon, il est écrit qu'elle aurait appartenu à un certain Johannes Behrens, un homme qui est présenté comme un capitaine de la marine marchande allemande qu'il aurait acheté en 1933.
Et donc ?
Eh bien, lorsqu'on commence à parler de la stèle, un journaliste découvre que Jean-Claude Gandur, le collectionneur suisse, possède lui aussi un portrait qui aurait appartenu au même Johannes Behrens. Le journaliste en informe donc Jean-Claude Gandur, qui, intrigué, se met à la recherche de ce marin. Et voilà ce qui se passe.
Une amie à moi, qui est française d'ailleurs, qui a été magistrate, un jour elle m'envoie un message où elle me dit « Piqué par la curiosité, je l'avoue, j'ai trouvé trace d'un Johannes Behrens, capitaine au long cours et professeur de navigation à Bruxelles en 1886. »
Ce qui est dans la légende, c'est Johannes Behrens, 1933.
Donc ça veut dire qu'il avait une cinquantaine d'années.
Possible.
C'est possible.
C'est possible, sauf que quand on y regarde de plus près, Philippe, c'est très peu probable.
Oui, ça c'est l'égyptologue Marc Gabold, le chercheur, qui va s'en rendre compte. Lorsqu'il découvre que la stèle de Toutankhamon est attribuée à ce marin, il se dit que quelque chose ne colle pas.
Un capitaine de la marine marchande, ça doit gagner au maximum l'équivalent de 5000 euros de nos jours. Toutankhamon, en 1935, ça fait moins de 10 ans qu'on a découvert le tombeau et ça fait moins de 5 ans qu'on a découvert le cercueil d'or. Donc c'est le pharaon le plus connu. Et une stèle intacte au nom de ce pharaon avec la dernière année de règne écrite dessus, ça vaut déjà forcément à l'époque des sommes colossales.
Donc ce marin n'avait pas apparemment les moyens de se l'acheter. Et encore d'ailleurs, faudrait-il pour ça qu'il ait existé, hein, ce marin. Bon, et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Eh bien, une fois que la stèle est installée dans les vitrines du Louvre, à Abu Dhabi, le Louvre Paris propose à l'égyptologue Marc Gabold de publier un article sur elle, car cette stèle est inédite. Mais comme l'explique la journaliste Roxana Azimi, Marc Gabold se pose déjà des questions sur la provenance de la stèle. Et il va le faire savoir.
Il fait part de ses doutes à Vincent Rondeau, qui est le conservateur en charge des antiquités égyptiennes au Louvre, et à Olivier Perdu, qui est un égyptologue réputé du Collège de France. Et quand ils en parlent à Martinez, Martinez dit « bon, on va pas faire de vagues, soit on ne publie pas l'article, mais soit on le publie, mais sans indication de provenance ». Et ça, c'est quand même assez particulier de publier un article dans une revue d'égyptologie sans du tout faire mention de provenance, alors que les questions de provenance, c'est aujourd'hui le cœur des préoccupations de tous ceux qui traitent avec l'archéologie.
Et donc, il le publie finalement, son article ?
Eh bien oui, il finit par le publier en mars 2020, mais il ne dit rien sur la provenance de la stèle. C'est donc un article édulcoré qui sort, mais Marc Gabold explique aujourd'hui qu'il ne voyait pas comment faire autrement.
Les gens du Louvre étaient embêtés parce que la provenance était au moins assurée qu'ils ne le pensaient. Les gens du Louvre à Abu Dhabi, eux, voulaient que je mette une provenance non vérifiée. Moi, je ne voulais pas, donc j'ai proposé, bon ben, je ne mets absolument rien sur la provenance. J'ai un peu botté en touche, mais il me semblait que l'intérêt scientifique de cette stèle était d'être connu. En ne donnant aucune indication sur la provenance, ça montrait que la provenance pouvait être problématique.
France Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors on a vu comment le Louvre a acquis une stèle probablement issue du pillage archéologique. On a aussi vu qu'au sein de l'institution, on fait plutôt profil bas lorsqu'on commence à avoir des doutes hein, sur sa provenance. Mais bientôt, la vérité va éclater, Philippe Reltien.
En effet, et tout l'édifice va s'écrouler à l'issue d'un autre épisode rocambolesque. De même que la photo de Kim Kardashian au Met avait mis le FBI sur la piste des trafiquants d'art, Robin Dibb, le fournisseur d'objets volés, va lui être dénoncé par son ancienne épouse depuis l'Australie, comme le raconte l'avocat Emmanuel Pira.
Son ex-femme, voulant se venger dans le divorce, finit par dire aux policiers « Au fait, les antiquités que mon mari vend ne sont pas des antiquités qu'il a achetées il y a plusieurs décennies ou qui viennent de vieilles familles, mais c'est des antiquités frauduleuses, pillées quelque part et elle fait des photos ». Avant de s'enfuir et d'aller demander une pension alimentaire record. Elle part d'abord en Australie, et donc ce qui fait qu'à un moment, on voit la police australienne se mêler du dossier. Et puis ensuite, elle part au Canada, et dans cette espèce de panorama général, on retrouve après donc le FBI, la police canadienne, les Australiens, l'État du Yémen, l'État de la Libye, l'État du Qatar et l'État des Émirats arabes.
Ouais, ce qui fait effectivement beaucoup de monde aux trousses du faussaire de la famille Simonian.
Effectivement. Et Robin Dibb sera arrêté en mars 2022. Il est alors mis en examen et placé en détention provisoire. Début juin de cette année, il sera auditionné par le juge Jean-Michel Gentil. L'expert français Christophe Kunicki, lui aussi, a été mis en examen, ainsi qu'un autre homme, Richard Samper, qui est son compagnon et associé. Ils reconnaissent alors avoir vendu des objets douteux. Écoutez un extrait de ce que Richard Samper a dit lors de son audition. Nous avons fait lire ses propos.
Nous avons perdu la tête. On a fait comme les autres musées et acheteurs. On n'a peut-être pas voulu voir la vérité en face.
Et vous n'avez pas cédé à l'appât du gain?
On a été éblouis. Le Metropolitan de New York, lui, a foncé tête baissée quand ils ont vu l'objet, exposé 4 fois depuis les années 90 au British Museum à Cologne, à la Bibliothèque nationale de Vienne. On a fait une connerie, on n'aurait pas dû accepter.
Donc l'associé de Christophe Kunicki admet qu'il a été ou qu'ils ont été négligents. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, Philippe, c'est comment quelqu'un comme Jean-Luc Martinez, qui est quand même ou qui était le patron d'un des plus grands musées du monde, lui n'a pas flairé la supercherie.
Alors lui explique qu'il n'était pas décisionnaire et qu'au final, c'était les Émiratis qui décidaient de ce qu'ils achetaient pour leur musée. Il dit encore que c'était pas son travail de vérifier chaque document. Sa spécialité à lui, d'ailleurs, c'était la Grèce antique. Écoutez cet extrait de son audition par la police que nous avons également fait lire.
Robin Dibb et Christophe Kunicki ont fait des faux pour faciliter la vente de plusieurs objets, dont le portrait d'Akhenaton. Qu'en dites-vous ?
Que dans ces conditions, le Louvre d'Abu Dhabi a été victime de faussaires.
Vous êtes un spécialiste reconnu qui connaît les modes opératoires des pilleurs et trafiquants. Quand vous donnez votre avis sur les acquisitions, vous ne mettez personne en garde sur cette possibilité ?
De manière générale, oui, mais sur ce cas précis, je n'avais pas connaissance d'un doute sur son propriétaire.
Vous prenez tous les documents qui vous sont présentés comme argent comptant ?
Je vous le dis, madame, ce n'est pas moi qui vérifie ces documents.
Oui, mais on vous les montre.
Eh bien, je doute que ceux-là, on me les ait montrés.
On ne lui a pas montré les documents qui concernaient ses achats ?
Alors ça, ce sera à la justice de l'établir. Mais lui dit ne se souvenir que de 2 dossiers. Celui de la stèle de Toutankhamon et celui du buste de Cléopâtre.
Ouais, qui sont quand même les objets qui ont coûté le plus cher.
Ah, en effet, 35 millions d'euros pour le buste de Cléopâtre et 8 millions et demi pour la stèle de Toutankhamon. Mais pour le reste, même si certains témoins insistent sur le rôle clé joué par Jean-Luc Martinez, son avocat François Artufel se montre catégorique. Le patron du Louvre, dit-il, n'était qu'un acteur parmi d'autres dans ce dossier.
Je confirme que Jean-Luc Martinez a voté en faveur de l'acquisition de la stèle, comme les 11 autres membres de la commission d'acquisition du Louvre à Abu Dhabi. Je rappelle également que Jean-Luc Martinez n'avait pas de voix prépondérante dans le cadre de cette commission d'acquisition, n'avait pas de droit de veto et était un membre parmi d'autres de cette commission d'acquisition.
Ouais, commission qui aurait donc fait preuve à minima d'une certaine légèreté. Maintenant, il y a sans doute une raison à cela, et une raison qui est peut-être une des clés d'ailleurs de toute cette affaire, une raison dont on vous parle dans quelques instants. A restless heart, hear me. A restless heart, like a runaway train, a breakneck speed.
restless heart that hear me is running out of track. Restless heart. Oh yeah, one track mind, a couple demon to feed. Reaching in sat back with Clyde, checking out the perfect view. A first class seat. While the couple in strain and the axles.
Balade enveloppante et nostalgique, Restless Hearts, cœur agité en français. C'était le dernier single du Britannique Jonathan Jeremiah, un ancien agent de sécurité d'ailleurs, qui en est aujourd'hui à son cinquième album.
France Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
Et retour à notre récit sur ce trafic d'antiquités égyptiennes dans lequel l'ex-patron du Louvre, Jean-Luc Martinez, est mis en examen. On va maintenant essayer de comprendre pourquoi on semblait si pressé d'acheter des objets authentiques, certes, mais dont la provenance, elle, était douteuse. Et la clé de tout ça, Philippe Reltien, eh bien, elle se trouve peut-être dans le contexte qui a présidé à ces ventes.
Oui, parce que il faut se rappeler qu'à cette époque, le Louvre Paris doit absolument, et c'est dans le contrat, aider le Louvre Abu Dhabi à acquérir des objets prestigieux. Il est alors en concurrence avec le musée Guggenheim qui lui aussi s'installe aux Émirats. Tout ça se déroule donc dans un climat de compétition. C'est à qui sera le premier à ouvrir un grand musée pour développer le tourisme là-bas. Et dans ce contexte, il y a une espèce de course à l'échalote, comme l'explique le sénateur Pierre Ouzoulias.
Il y a ce que j'appelle le syndrome de Bilbao. C'est l'idée, pour certains États, que la construction d'un grand musée, ça permet d'acquérir un statut touristique qu'on n'a pas auparavant. Et c'est ce qui se passe avec Abu Dhabi. Et l'Arabie Saoudite est en train de construire aussi ses musées avec d'autres finalités. Donc, le marché de l'art est aujourd'hui face à une demande d'objets telle qu'il ne l'a jamais eue et qu'il est incapable de satisfaire. Donc, on est obligé, d'une certaine façon, de fermer les yeux sur tous ces trafics parallèles qui alimente un marché qui aujourd'hui est à saturation.
D'où des dérapages et des achats un peu précipités.
Oui, on peut le dire, mais il y a aussi un aspect diplomatique dans cette guerre des musées. La France cherche à accroître son influence et à s'attirer les faveurs des Émirats pour décrocher d'autres marchés, y compris par exemple la vente d'avions Rafale. Le Louvre Abu Dhabi, c'est donc aussi un instrument d'influence. Il doit absolument rayonner dans le monde. Et ça passe par l'achat d'objets exceptionnels. C'est ce que pense en tout cas l'avocat Emmanuel Pira.
Face au Guggenheim qui se construit, face à cette compétition qui existe sur les territoires des Émirats arabes, où la France a cette petite Sorbonne aussi juste à côté, il y a évidemment, il faut aller vite, il faut être celui qui plaît le plus au pouvoir des Émiratis, il faut être le plus complet et le plus peut-être clinquant. Les sarcophages dorés, évidemment, c'est un des points incroyables gagnés de compétition face au Guggenheim, qui sera plus gros, mais sans doute un peu plus terne s'il n'a pas de même sarcophage ou autant de dorures.
Ouais, puis il y a un autre élément de contexte qui peut-être a lui aussi joué, Philippe.
Oui, oui. À cette époque, le ministre égyptien des Antiquités envoie une lettre à la France et aux Émirats pour exiger le rapatriement d'objets pillés qui sont présents dans des collections ou dans des galeries, y compris à Paris. Il faut donc acheter ces objets vite, mais sans que les Égyptiens s'en aperçoivent.
Ouais, parce qu'ils pourraient demander à ce qu'on les restitue. Bon, mais en même temps, Philippe, on l'a dit tout à l'heure, hein, Jean-Luc Martinez, c'est le patron d'un des gros, des plus gros musées du monde même. Alors, est-ce qu'il a fermé les yeux sur l'origine de ces antiquités ou est-ce qu'il s'est fait berner ?
Eh bien, c'est difficile de répondre à ça, mais personne n'exclut qu'il se soit effectivement fourvoyé, tout comme certains de ses collaborateurs du Louvre. C'est en tout cas l'hypothèse que formule la journaliste du Monde, Roxana Azimi.
Quand on demande à des gens très compétents de faire trop de choses en même temps et d'aller très vite à marche forcée avec une cadence pas normale, donc une cadence qui ne permet pas de faire attention à tout, il fallait avoir des objets exceptionnels dans ce Louvre à Abu Dhabi. On a mis trop, à mon sens, on a mis beaucoup trop sur les épaules de conservateurs qui ne sont pas du tout formés pour ça. Ce ne sont pas des diplomates, ce ne sont pas des politiciens. Il y a beaucoup de choses qu'ils auraient pu, sur lesquelles ils ont peut-être été et sans doute été négligents. Ils n'ont même pas eu des réflexes, même de bon sens, on pourrait penser.
Et Jean-Luc Martinez, lui, il reconnaît s'être précipité parce qu'il fallait remplir rapidement les collections d'Abu Dhabi ?
Alors, d'après ce qu'on peut lire, non. Lui dément totalement. Écoutez à ce sujet cet autre extrait de son interrogatoire. Voilà ce qu'on lui a demandé précisément.
La pression ne venait pas des Émiriens ?
Je ne crois pas. L'ouverture était possible sans ces acquisitions, en raison des prêts. On a pu le penser, mais ce n'était pas le cas. La pièce égyptienne la plus importante était la statue de Ramsès II, prêtée par le Louvre. Et elle y est encore.
Ouais, donc lui considère que même sans ces objets litigieux, le musée avait suffisamment de matière d'antiquité, en tout cas pour ouvrir.
C'est ça, avec des prêts de musées français. Mais cette explication ne convainc pas certains hauts fonctionnaires que j'ai rencontrés, comme ce proche de Jean-Luc Martinez, Alain Lombard, administrateur général au musée d'Orsay notamment. Lui estime que dans cette affaire, on est peut-être allé un peu trop vite.
Il y a pu y avoir peut-être, dans certains cas, une décision prise un peu rapidement du fait de pression concernant la nécessité de rester dans les temps. C'est possible. Et d'ailleurs, il y a une réflexion importante en cours pour envisager une amélioration des conditions d'acquisition par les musées d'œuvres éventuellement problématiques.
Ah oui, donc l'affaire pourrait avoir des conséquences sur les procédures d'achat des musées. Bon, maintenant, que vont devenir ces objets, Philippe ? Ces objets litigieux, est-ce qu'il va falloir les rendre à l'Égypte ?
Alors, on ne sait pas vraiment, mais c'est improbable, car les objets achetés appartiennent maintenant aux Émiratis. Et on les voit mal les restituer alors qu'ils les ont tant convoités. Sachant que, comme leurs voisins saoudiens, ils pèsent lourd financièrement et diplomatiquement face aux Égyptiens. Et
puisqu'on parle diplomatie, est-ce que cette affaire aura des conséquences sur les relations entre les Émirats et la France?
Alors là aussi, peu probable, parce qu'entre le pétrole, le gaz, la sécurité, les ventes d'armes, il y a trop d'intérêts communs entre les deux pays pour se payer le luxe d'une crise. On peut donc penser que cela se réglera discrètement en coulisses. C'est en tout cas l'avis de l'avocat Emmanuel Pira.
Il y a un jeu diplomatique entre surtout les Émirats arabes et la France et l'Égypte, où là, les intérêts sont évidents et convergent. Et donc on est d'accord, on le voit, en décembre 2021, pour reconduire de 10 ans l'accord entre le Louvre et le Louvre Abu Dhabi, France Muséum. Il n'y a pas de raison de se fâcher parce que des objets ont été pillés, revendus, conseillés. Il y aura des problèmes à régler, mais on peut régler ça entre
le Français
et, on va dire, la capitale Abu Dhabi.
Donc, sous réserve de la décision du juge, il y aura sans doute un ou des procès pour les trafiquants et pour les éventuels receleurs, mais cela n'ira sans doute pas plus loin. Sauf que l'archéologue et sénateur communiste Pierre Ouzoulias, lui, n'a pas l'intention d'en rester là.
Il y a un traité international qui lie la France aux Émiratis avec une clause qui est très forte, hein, et par laquelle la France s'engage à apporter toutes les données muséographiques précises au Louvre d'Abu Dhabi pour faire des acquisitions qui soient dans l'ordre des choses. Voilà. Et là, la clause n'a pas été respectée. Donc, le parlementaire que je suis va revenir sur ce dossier pour demander comment le traité est respecté et pourquoi il ne l'a pas été sur ce cas précis. Là, ça intéresse la représentation nationale. On ne nous évacuera pas comme ça de ce dossier.
Oui, sauf que Pierre Ouzoulias, Philippe, il est plutôt minoritaire au Sénat, donc rien ne dit que ses interventions auront un impact.
C'est vrai. En revanche, la médiatisation de l'affaire, elle a déjà eu des conséquences. Elle suscite une méfiance de la part des acheteurs qui deviennent suspicieux, et cela entraîne par ricochet des conséquences sur l'activité des maisons de vente. Je précise enfin que la semaine dernière, le MET, le Metropolitan Museum de New York, d'où est partie toute cette affaire, a rendu à l'Égypte non seulement le sarcophage doré, mais 5 objets qui provenaient de la même filière.
Oui, la fameuse filière des Simoniens dont on vous parlait au début de cette émission. Et ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Reltien. Alors je précise que votre enquête, on peut la lire sous forme d'article sur franceinter.fr, mais on peut aussi la podcaster sur l'appli Radio France. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique et à la technique. Il y avait Louis Audebert. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.